Jennifer Lopez est une chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90. Les chances de la voir en spectacle à Gatineau sont d'environ 1 sur 1 million. En contrepartie, les odds de voir un de tes artistes québécois favoris tels que Loud ou Claude Pelgag sont énormes. Grâce à l'ambassade culturelle, tu pourras assister à une multitude de spectacles en Outaouais dans un univers pas mal plus intime qu'à Oshiaga. Et ce, tout au long de l'année. Rendez-vous sur la page Facebook de l'ambassade culturelle pour voir notre programmation ou nous écrire si tu as toujours rêvé de faire la première partie de J-Lo, la chanteuse d'origine portoricaine très populaire de la fin des années 90!
De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout du monde, Montréal est une ville de nomades. Le festival Nomade rassemble celles et ceux qui sont nomades par culture, par choix ou nomades forcés. Musique, cinéma, gastronomie, pendant 3 mois, jusqu'en décembre, le festival Nomade fête ses 10 ans. Suivez la programmation sur le www.lacaima.ca, KHAIMA/festival-nomade.
Elles sont jumelles, chorégraphes et interprètes. Pour la toute première fois, les sœurs Schmout joignent leurs forces pour créer une pièce où leur gémilité est au centre de leur sujet d'étude. Un duo intime, auto-fictionnel, livrant un objet chorégraphique troublant. La nouvelle création, L'identité du double, à voir du 4 au 13 octobre 2018 au Théâtre Prospero. Une présentation de Densité. Pour plus d'infos, visitez densité.org.
Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide 1 personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. Centraide.uqam.ca.
Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
Bonjour, bonjour, mon nom est Megan Bédard et bienvenue à l'épisode 185 de Pop en Stock. Donc, cette semaine, nous allons aborder un sujet qui est quand même assez chaud parce que vous aurez peut-être remarqué depuis les 2 ou 3 dernières années une recrudescence des photos Facebook de vos proches, de vos cousins, cousines, anciens collègues de job avec des sourires figés qui tiennent une affiche, écrit soit « victoire » ou « échec ». C'est selon, dans une espèce d'environnement bétonné. Donc, on s'est dit que il fallait adresser, je sais pas si on pourrait appeler ça un ce phénomène culturel-là. Et on a rassemblé donc une Dream Team qui est aussi presque à une exception près. La même équipe qui était au dernier épisode qu'on avait fait sur l'hybridité ludique et ce n'est pas par hasard. Donc, sans attendre, je vous présente Marc-Antoine Doyon de Etu Game. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour.
C'est vraiment un plaisir de te recevoir à nouveau à Pop en Stock.
Merci, mais c'est un plaisir d'être ici. Puis effectivement, là, la dernière émission qu'on a fait, on jasait, puis on n'arrêtait plus. Puis on était comme, waouh, faudrait qu'on parle d'Escape Game. Puis oui, là, on est là, puis je suis excité.
Mais c'est parce que toi, t'en as fait vraiment beaucoup. Tu nous en parlais avant d'entrer.
Ouais, ben là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui en ont fait plus que moi. Mais j'en ai fait, je crois que je suis rendu à une vingtaine, là, 20-25 jeux d'évasion, puis je les ai fait en tant que client, comme participant, et j'adore ça, j'en mange, j'aime vraiment ça, j'en ai fait de toutes les sortes, beaucoup à Montréal, principalement, en extérieur, en intérieur, puis j'ai hâte de vous en parler davantage.
Ouh, j'ai très hâte d'entendre ça, et juste à côté de toi, on a Sébastien Savard.
Bonjour.
Ça va bien, Sébastien?
Très bien.
Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir encore une fois avec nous à Pop en Stock.
Plaisir partagé. J'ai fait moins d'escape de game que notre compère ici. Moi, j'y vais dans une perspective où est-ce que ça, j'analyse comment les designs sont faits. Donc, on y va en étudiant en game design. On en fait ensemble. Après ça, on va prendre une bière après. Puis on souligne les bons coups, les mauvais coups. Puis là, ben, si on a le temps, je parlerai d'une expérience que j'ai eue par rapport à un game jam, où est-ce qu'on en a designé un pour une compagnie. Puis là, ben, on va en parler tantôt. Hein. Ça pourrait être intéressant.
Tu veux dire les mauvais coups de la salle en tant que telle ou vos mauvais coups en tant que joueur?
Nos mauvais coups.
Donc c'est ça, c'est vraiment deux perspectives différentes qu'on va sûrement aborder tout au long de l'émission. Donc la perspective des utilisateurs et des créateurs. Et aussi pour parler, je pense que autant de créateurs, utilisateurs, réflexions, c'est le moment de présenter Sylvain Trottier. Donc bienvenue à nouveau à Pop en Stock.
Ben, ça fait plaisir.
C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Donc le dernier épisode auquel tu avais participé, c'était sur les élections. Donc on peut voir
je suis partout.
L'étendue
multidisciplinaire.
Élections, jeux d'évasion.
Non, c'est ça, mais bien vraiment entre élections et jeux d'évasion, on peut parler des méga games donc dont tu avais parlé.
Effectivement, c'est une sorte de point commun, tout
ouais,
à fait.
C'est ça, en convergence entre les deux. Donc, est-ce qu'il va en avoir un prochainement? Parce qu'il y en a eu un dernièrement.
Ouais, le dernier, c'était le 29 septembre dernier. Là, je prends une petite pause. J'ai pas de date encore à donner aux joueurs, même si on me demande avec insistance. Mais, mais ça ne saurait tarder. J'ai des locaux maintenant de façon plus facile. Donc, c'est généralement le gros frein à pouvoir en organiser. Puis là, j'en ai. Donc, ça devrait être dans pas si long que ça. Le temps de se poser un peu.
Ouais, c'est ça, de te remettre aussi des élections.
Aussi.
Et du rush de travail. Dernièrement. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Ouais.
Et finalement, pour compléter cette merveilleuse équipe, on a avec nous Elisabeth Simpson, animatrice des Amazones,
tout à fait.
Chroniqueuse Pop en Stock hier. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aussi.
Mais c'est un plaisir d'être ici aussi. C'est difficile dans mon horaire de venir à Pop en Stock, mais aujourd'hui ça m'était possible. J'ai testé quelques jeux d'évasion, puis je voulais amener aussi un input un peu différent, des angles aussi différents de encore une fois du côté d'être joueuse. Mais dans d'autres cadres qui sont tout à fait reliés au escape game sans nécessairement être, mettons, les traditionnels où on va payer une vingtaine, trentaine de dollars pour se battre contre la montre, mais dans d'autres types de jeux immersifs, en fait, tels le Grandeur Nature et d'autres choses comme ça.
C'est ça, parce que pour commencer, les escape games, c'est un phénomène assez récent, donc il est encore un peu en mode de transformation et fixé... C'est comment je pourrais appeler ça?
Des conventions
ou des frontières aussi pour le différencier de d'autres types de jeux. Puis pour commencer ça, faut justement, pour réfléchir à ça, il faut commencer par une définition. Donc on essayait de voir, c'est sûr que la définition la plus simple du escape game que j'ai pu trouver sur un blog, qui est quand même assez bien fait si vous voulez aller consulter des noms de escape game au Québec, à Montréal aussi. Donc, on parle de joueurs ou de joueuses enfermés dans un lieu donné qui vont devoir tenter de résoudre une série d'énigmes en un temps alloué pour gagner la partie. Donc, il y a vraiment ici une série de critères qu'on peut commencer par se baser. Mais avant d'entrer vraiment dans ce que les escape games sont aujourd'hui, il faut aussi rappeler d'où ils viennent. Donc, c'est sûr que ça vient et du jeu vidéo et d'autres choses. Je pense que Sylvain, tu voulais commencer par nous parler un peu de...
Ouais, ben c'est mes petites recherches m'ont amené à un jeu en fait que j'avais joué il y a longtemps sans trop me rendre compte à ce moment-là que c'était un peu un précurseur des jeux d'évasion. Ça s'appelle la Crimson Room. Je sais pas s'il y en a ici qui ont déjà joué. Je vois Marc-Antoine qui hoche de la tête. Hein?
Oui.
C'est un jeu qui est sorti début 2000. Puis l'idée du jeu, c'est que en vue subjective, donc à première personne, le joueur doit comprendre où il est exactement parce que tu te réveilles dans une pièce et autour de toi un meuble, un lit, une porte. La porte est barrée, t'as aucune idée pourquoi t'es là. Donc le réflexe naturel c'est de te dire ben je vais essayer de sortir, mais comme tu ne peux pas, ben tu commences à explorer un peu plus en détail la salle, puis là, tu découvres qu'il y a une petite clé cachée sous l'oreiller, puis là la clé te permet d'ouvrir le meuble à côté, puis là tu commences à trouver certains éléments, puis à force de collecter ces objets-là, ben tu réussis à ouvrir la fameuse porte et tu en sors. Donc, c'était le premier jeu vraiment comme ça, construit dans l'idée de t'es coincé dans une pièce, faut que tu sortes. Après ça, des jeux à énigmes, il y en avait bien avant, il y en a de nombreux. Personnellement, c'est vraiment un avis personnel, je place Myst, la série Myst, comme étant vraiment un point pivot dans les expériences de jeux d'énigmes, jeux vidéo d'énigmes.
Narratif
et uniquement d'énigmes aussi, pas de combat, pas d'autres mécaniques. Tu te promènes, t'es dans un lieu fermé. fermé et tu essaies de comprendre la logique de ce lieu fermé pour pouvoir progresser. Mm-hmm. Ce qui est un peu la même chose qu'on retrouve dans les jeux d'évasion aujourd'hui. Tu es dans un lieu fermé et tu essaies de comprendre comment réussir à en mm-hmm. sortir. Parallèlement à ça, il y a d'autres formes de jeux vidéo, encore une fois, qu'on peut voir. Il y a Ouverture facile.
encore. Oh, je pensais à ça. C'est vraiment particulier parce que je pensais à Ouverture facile pas plus tard qu'il y a 2-3 jours en me disant hey, j'ai jamais pensé à travers. Parce que je me suis rappelé que j'avais jamais pensé à travers Ouverture facile.
Personne ne passe au travers Ouverture facile. Ouais, je pense même le designer s'est jamais rendu au bout.
Mais ouais. Je me suis donné comme défi, ça serait drôle de recevoir des amis à la maison
puis essayer
faire
de passer
comme,
au travers.
Hey, on essaie-tu. Mais c'est sûr qu'on peut pas parce que ça prend plus
ouais,
qu'une journée.
Tu le feras pas, ouais,
c'est Swan, ouais, le designer.
Exactement.
De ça, je me rappelle de ça.
Pour ceux qui savent pas de quoi on parle quand on parle d'Ouverture facile, en fait, rapidement, c'est un site web très simple, une page blanche, presque uniquement blanche, et tu rentres le lien et t'as une première énigme qui apparaît à toi, mais qui est pas claire. Puis là, à un moment donné que tu réussis à comprendre en jouant avec l'URL, par exemple.
C'est une tête.
Ouais,
c'était la tête de quelqu'un, tu tassais les bouts de crâne, puis il fallait que tu cliques sur son cerveau.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première.
Ouais.
Puis quand tu réussis, ben, il y a une nouvelle page qui apparaît. Puis là, tu fais comme OK. Puis là, ben, progressivement, tu passes de page en page et c'est des énigmes de plus en plus tordue, profonde, qui t'amène à aller chercher dans le code du site web, qui t'amène à aller chercher des outils pour transformer des effets sonores que t'entends.
Mm-hmm.
Et tu développes, en fait, tout plein d'outils, et plus ça avance, plus ça se complexifie, plus ça devient tordu. Et il y a un forum qui est un outil plus qu'essentiel pour réussir mm-hmm. à s'en sortir. En fait, si tu ne vas pas sur le forum, tu peux pas le faire. Il y a même certaines énigmes qui jouent sur le forum, d'ailleurs.
Oh,
donc,
wow.
Donc t'es obligé d'aller dans le forum pour aller chercher certaines informations qui sont cachées. Puis Swan, je sais pas s'il est seul ou si c'est un groupe. A priori, il est seul.
Je pense
mais...
que c'est un Français solo. Ouais.
C'est ça. Mais il y a une imagination et une créativité vraiment débordante pour ces énigmes qui sont toutes différentes les unes des autres. Et semble-t-il qu'il y a un nombre fini d'énigmes. Je n'ai jamais atteint la fin moi-même. j'ai des amis. J'ai un ami qui m'a dit qu'il avait réussi à passer au travers. Puis quand on en reparlait récemment, justement, il s'est dit ah ben je vais le refaire. Puis là, il a commencé à remonter tous les niveaux. Puis à un moment donné, il a bloqué parce que les liens ne fonctionnent plus,
brisé,
malheureusement.
C'était ma question. En fait, peut-on y jouer encore? Et c'était gratuit.
C'est ça.
Je
oui,
pense que tu peux certainement te rendre aujourd'hui assez loin pour
coincer par toi-même.
Pour être coincé par toi-même. Oui, absolument.
Ouais. Mais c'est du plaisir à voir.
C'est fascinant, ça, que Crimson Room, c'est un jeu vidéo d'une pièce. Puis le escape game, le jeu d'évasion d'une vraie pièce est arrivé plusieurs années plus tard, en fait. Donc ça, c'est assez particulier.
Ouais. Ben, Crimson Room a eu ensuite plusieurs dérivés. Ben, le créateur de Crimson Room a lui-même créé, je pense qu'il y a Yellow Room, puis ainsi de suite, qui sont arrivés du même créateur. Mais évidemment, là, on parle de début 2000, donc les jeux Flash, là.
Début
donc 2000. Genre Newgrounds ou je sais pas si...
c'est Wave,
ouais, ouais, c'est ça, exactement. Shockwave, tout ça, bref. C'était des dans le fond, c'était du indie avant Steam, hein, en mm-hmm. quelque sorte, et il y avait toutes sortes de créations qui se faisaient là, des trucs vraiment intéressants comme des trucs vraiment pas bons, mais il y avait une très grande liberté de création, et quand t'avais un truc comme ça un peu unique qui sortait, ben t'avais plein de entre guillemets clones, donc des gens qui reprenaient cette sauce là puis qui l'amenaient à leur propre saveur. Donc des fois c'était pas juste sortir d'une pièce, c'était de sortir d'une série de pièces. Puis si vous faites des recherches aujourd'hui, j'ai regardé, il y a encore moyen de trouver certains de ces jeux d'évasion là, hein, puis il y en a dans tous les genres, puis c'est toujours la même chose, c'est-à-dire tu as ton petit pointeur de souris, tu cliques un peu partout, tu collectes des éléments, puis les éléments, tu les combines avec soit des éléments de décor ou des éléments que tu as accumulés précédemment, et ça te permet de progresser.
Mais ça me fait penser un peu à la série de jeux vidéo The Room, mm-hmm. Où est-ce que, tu sais, c'est quand même ce que le jeu vidéo va nous apporter qu'on pourra pas avoir, mettons, dans un Escape the Room, où est-ce que c'était des beaux graphiques, puis c'était visuellement vraiment impressionnant à regarder, tu sais, on n'est pas rendu technologiquement à pouvoir faire quelque chose comme juste le concept de se téléporter dans une autre pièce, c'est un peu difficile. Mais oui, mais justement, c'est tout l'aspect que t'es pris dans une pièce, mais à chaque fois que tu réussis à résoudre l'énigme d'une boîte qui est à l'intérieur de la pièce, tu sais, alors c'est ça, ça s'appelle The Room, mais techniquement, tout tournait toujours autour d'un mécanisme qui était devant nous, puis que dans le fond, ben, ça te débloquait, puis ça te faisait comme téléporter dans un autre endroit, où est-ce que dans le fond, tu faisais juste essayer de... C'est plus une excuse pour faire des énigmes, d'avoir cette espèce de narrativité-là où tu lis les notes d'un parent qui t'explique un peu où est-ce, jusqu'où il s'est rendu pour découvrir comme justement d'avoir ouvert quelque chose d'un peu tordu ou est-ce qu'il s'est fait prendre dans le temps et tout ça. Mais bref, c'est une belle série de jeux. Puis c'était, aux dernières nouvelles, c'était quand même assez accessible au niveau des prix aussi, parce que ça commence à dater, là, donc...
Ben, The Room 3, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, c'est une maison de poupées. Puis tu transportes dans les pièces pour les défaire. Puis là, tu ressors. Puis là, t'as la maison de poupées, l'énigme de la maison de poupées à défaire de l'extérieur.
J'avais juste joué aux deux premiers, là, mais c'est super intéressant. Le
troisième est très bien aussi, également, là. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis tu disais début 2000, c'était les ces jeux vidéo là, puis en parallèle, tu avais en 2003, tu as Sleep No More qui est une maison hantée/pièce de théâtre interactive où est-ce que les spectateurs ont des masques et voient cette pièce de théâtre là, et tous les acteurs, une trentaine de comédiens, font la première scène dans une salle. Ça se déroule dans un vieil hôtel à New York, puis après la première scène, les acteurs s'en vont dans différentes pièces, puis les spectateurs peuvent les suivre ou ne pas les suivre s'ils veulent, puis décident quelle histoire ils vont suivre. Fait que je pense que c'est des précurseurs, ça aussi, là, des précurseurs dans la vraie vie.
Ouais, là. C'est ça. Ça, c'est le côté un peu plus analogique, entre guillemets, de l'expérience. Mais comme on mentionnait plus tôt, c'est une espèce de rencontre, en fait, entre un certain type défini de jeu vidéo, de jeu à énigmes, et une volonté de vivre en réel l'expérience. Puis ça s'est rencontré, puis ça a formé les escape games qu'on connaît aujourd'hui. Puis on en parlait tantôt, puis je pense qu'on va aller dans cette ligne-là dans pas long. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que si oui, les premiers qu'on a vu apparaître, du moins à Montréal et je pense dans le monde, c'était sortir d'une pièce. Maintenant, c'est beaucoup plus vaste que juste sortir d'une pièce. Des fois, c'est de comprendre ce qui s'est passé ici. Il y en a qui sont plus narratifs, d'autres moins narratifs. Puis ça a vraiment explosé depuis. Mais je dirais que les racines sont vraiment du côté du jeu vidéo.
Pour ce qui est à trait de la mécanique, surtout.
Ouais, c'est ça.
Parce que, comme tu disais, Elisabeth, un peu plus tôt, c'est sûr que la narration plus linéaire de The Room, c'est un peu un prétexte pour faire justement des énigmes, mais je sais pas, j'ai jamais fait de jeu d'évasion personnellement, parce que je sais pas à quel point la narration est impliquée là-dedans ou pas.
Qui commence?
Oh my God. Je dirais que ça dépend.
Ouais, c'est ça.
Ça dépend vraiment de
la manœuvre.
C'est ça.
Il y a certaines rooms, il y a certaines pièces que si t'es pas capable de déduire l'histoire qui se passe, tu peux pas en sortir.
Ça, c'est intéressant.
Il y a d'autres pièces qu'on m'a racontées. Il y a des beaucoup plus abstraites. J'ai rencontré une... Je crois qu'elle était belge. Elle disait que c'était super intéressant parce qu'on en a fait à Montréal. C'était full narratif. Puis elle, en Belgique, les escape games, c'est pas ça du tout. C'est une pièce, puis c'est une pièce toute rouge. Ou une pièce avec plein de clowns.
Fait que mon Dieu, c'est horrible!
Zéro histoire, mais vraiment, c'est une pièce... plein de clowns, puis essaye de t'évader de la pièce.
Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend aussi de l'expérience que tu recherches. Moi, je dois avouer, la toute première que j'ai faite, je m'attendais à un côté un peu narratif. Moi, c'est ce qui me plaît. Puis on dit, ok, il y a eu un prisonnier qui s'est évadé il y a longtemps, puis on vous met au défi de refaire son évasion. Puis on rentre dans la salle, puis en fait, les énigmes, c'était des trucs qui avaient aucun rapport avec l'idée d'évasion. C'était juste des codes cachés à gauche à droite. Puis je vois pas comment il aurait pu s'évader s'il utilisait des codes qui étaient dans la pièce. En tout cas, bref, vous voyez un peu l'idée. Donc moi, ça m'avait un peu déçu à ce moment-là, cette première expérience-là, parce que je faisais, ben, dans le fond, j'aurais pu prendre un livre d'énigmes, entre guillemets. Oui, ok, on était dans un décor et tout ça, mais il y avait pas d'histoire, il y avait pas de... Donc j'ai été un petit peu déçu, mais pour en avoir testé d'autres après, je me rends compte qu'il y en a qui sont beaucoup plus narratifs et qui ont vraiment un effort de la part des créateurs pour que les énigmes soient cohérentes dans l'univers. Je pense d'ailleurs à un que j'ai fait qui est un bateau pirate où il y a des cadenas. Un bateau pirate avec des cadenas.
Ben oui.
Excuse-moi, mais ça casse complètement. Là. C'est un cadenas à chiffres pour un bateau pirate.
Non, c'est ça, un cadenas à chiffres, non. Mais si, mettons, ça avait été un vieux cadenas.
Oui, c'est ça, exactement.
Ou un vieux coffre, tu sais, déjà.
C'est ça.
C'est quelque chose, si je peux me permettre, parce que un des grands absents de cette table, c'est Guillaume Couture, qui pouvait pas être avec nous, mais qui est un designer de Escapaz, qui est un escape room à Montréal. Puis, pour avoir bêta-testé des salles à Escapaz, puis là, je comme j'encense Guillaume pendant qu'il est pas là, mais l'avantage aussi, c'est ça, c'était comme il y avait une cohérence entre les énigmes, mais aussi, tu sais, le design de la pièce, puis on va utiliser des objets, je pense entre autres à une pièce qui tournait autour de... En fait, que la thématique principale, c'était surtout de mettre les gens en contact avec des objets des années 80, et donc, tu sais, on va utiliser... on a Sylvain qui fait des pouces en l'air. on va utiliser donc ces objets-là qui était utilisé dans les années 80 pour avancer dans la... Donc, tu sais, toute cette espèce d'immersion-là, puis toute cette espèce de... cette cohérence était vraiment très agréable, tu sais.
C'est ça, parce que l'enrobage thématique, c'est pas juste un prétexte, justement, pour toucher à des objets des années 80. Il faut vraiment qu'ils soient intégrés dans les mécaniques, dans les énigmes.
C'est ça, cette pièce-là, la réponse à notre... Parce que Escapade, c'est moins de sortir de la pièce que de comprendre, tu sais, d'aller chercher une information, de comprendre quelque chose par rapport à, mettons, c'est comme, il est où son trésor, des choses comme ça, tu sais. Et là, mettons, dans cette pièce-là, c'était que tu cherches le numéro de téléphone de la personne populaire de ton école pour l'inviter au bal des finissants. Et la réponse, la finalité, c'est que tu t'ouvrais une armoire sur laquelle il y avait un light bright où le numéro de téléphone était inscrit en light bright. Et là, tu pouvais téléphoner.
Ouais, je l'ai faite, cette pièce-là.
Mm-hmm.
Puis moi, ça a longtemps été un exemple de pièce avec beaucoup trop de cannes.
Ben,
la salle d'ado, là.
Êtes-vous en train de brûler des punch?
Non,
ben, je pense qu'elle n'existe plus.
Les années passées l'ont changé.
Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu d'un point de vue de consommateur, une loterie. On va lancer une thématique, puis tu vas dire, OK, j'adhère, j'ai le goût de l'essayer. Puis finalement, c'est sur place que tu te rends compte si la narration est là ou non. C'est difficile à faire du marketing par rapport à ça.
Ouais. Ben, je suis d'accord avec ça. Ça me fait penser un peu aux jeux de société. Souvent, ce qu'on vend en arrière du jeu de société, c'est l'univers qu'on va te proposer, mais peut-être qu'une fois que tu vas être rendu, ça va juste être, ben, prendre des cubes pour vendre des cubes. Alors que d'autres fois, ça va être super narratif, puis ça, ben, malheureusement, tu peux pas savoir sans l'avoir vécu ou bien avoir réussi à collecter des informations à gauche à droite de gens qui l'ont déjà essayé.
C'est ça, du bouche à oreille, c'est peut-être ça la clé. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut pas vendre les punchs non plus. Puis les jeux d'évasion sont peut-être, il faut qu'ils fassent attention à qu'est-ce qu'ils laissent transparaître. Fait que pas de téléphone à l'intérieur, ils disent tout le temps laissez-le à l'extérieur.
Ça, prenez pas de photos.
On parlait de cette pièce-là, entre autres, parce qu'elle n'est plus une rotation des scénarios escapades. Fait que, tu sais, j'aurais pas donné de punch. C'était quelque chose qui se passe en ce moment. Ça aurait été un peu plate pour beaucoup de personnes.
L'argent.
Mais juste une parenthèse, c'est vraiment intéressant parce qu'il y aura une culture, justement, du secret, là, ou du spoiler un peu autour de ça qui est importante.
C'est quand même aussi problématique dans un point de vue de recherche. C'est ça qu'on se posait, nous autres, comme question. On faisait comme, là, on veut connaître savoir comment ils sont faits, d'en faire d'autres. Comment qu'on fait? Ben, on fait comme Marc-Antoine. On met notre argent.
Puis... C'est ça, contrairement, par exemple, à un jeu vidéo où tu peux avoir ça à des walkthroughs, à des let's play,
sur
à tout
Twitch,
ça, mais tu peux pas avoir ça dans un escape room, là.
Avec Itugame, on s'est déjà posé la question, on veut faire une série éventuellement, ou est-ce qu'on parle de escape game, puis c'est très difficile d'essayer d'en parler sans en parler, effectivement. Puis on a discuté assez longuement avec différents propriétaires de escape room, à savoir c'est quoi la meilleure manière de montrer des choses à l'intérieur, puis donner le goût, puis teaser le monde sans rien dévoiler, tu sais. Fait qu'essayer de redessiner un petit peu ces trucs-là. Sinon, il y avait Geek & Sundry aussi, qui avait une série quelques saisons, je crois, où est-ce qu'il faisait des escape rooms spécifiquement pour la série.
Okay.
Fait que là, ça demande tout un autre budget, là, mais...
Ouais, c'est ça qui overreact.
Ouais, absolument. Absolument, mais c'était excellent. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais triste qu'il l'arrête.
Mais ça existe encore.
Non, la série dans Geek & Sundry, là... Oui, il est encore. Okay. C'est YouTube. Il n'y a rien qui disparaît sur Internet, voyons. Ouais.
Bonne blague.
Mais c'est important de parler, tu sais, c'est important de parler aussi, je pense, j'ai fait une petite recherche cet après-midi sur les tarifs. By the way, c'est pas tous les sites que c'est évident de trouver la réponse. La plupart ne veulent pas que tu trouves rapidement la réponse. Je pense qu'ils veulent que tu t'inscrives, puis après ils vont te donner comme une soumission de combien ça va te coûter.
Ouais.
Puis j'ai trouvé aussi beaucoup d'escape rooms qui se trouvent dans des complexes ludiques où il va y avoir plusieurs activités. Donc tu vas pas payer pour faire l'escape room, mais tu vas payer, mettons, pour passer la journée dans l'espace ludique, un peu comme si, mettons, tu payais ton billet à la ronde, puis là, tu pourrais aller faire plein d'expériences que la ronde t'offre. Donc, mais en général, le prix semble tourner entre 20 et 30 $.
Mm-hmm.
Puis personnellement, puis ça, c'est plus parce que j'ai pas besoin d'en parler, j'en parle en masse souvent à Pop en Stock de ma relation avec l'argent, mais je suis pauvre, fait que c'est vraiment choquant, je trouve, de payer 30 $ de ta poche pour...
Une heure.
Pour une heure, alors que peut-être qu'à une heure et quart, t'aurais eu l'expérience complète, tu sais, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se revirer vers les escape rooms à la maison. que tu sais, là, tu vas payer un certain montant, mais tu sais que tu auras tout ton temps pour le faire, puis que tu sais, tu as même une possibilité de revente. Fait que tu sais, ça, ça, au niveau monétaire, je trouve que c'est des options intéressantes quand. Puis aussi parce que il y a une fierté à réussir un escape room, mais moi, en ayant que bêta testé des pièces, ayant toujours eu la chance de passer à travers tout le processus, je sais pas, avez-vous une relation différente avec comme la fierté de l'avoir réussi en sachant qu'il y avait plein de gens qui ont échoué?
Je l'avais noté, moi, à quel point c'est pertinent cet aspect-là de se vanter que je l'ai fait en 52 minutes, puis toi, tu l'as fait en 49.
C'est pour ça qu'il y a un board aussi dans beaucoup d'escape games. Mais nous, on est allés à Moncton, puis on a clenché tout le monde qui était sur le board, puis on était content de laisser notre nom.
Fait qu'il y a un public cible, il y a un type de joueur que ça intéresse, ça, l'aspect genre de performance.
Compétitif, ouais, absolument. Okay. Absolument. Moi, j'oserais même dire la première... Le premier escape game que j'ai fait à Échappe-toi, pour ne pas le nommer, mes attentes étaient tellement hautes parce que justement j'avais tellement fait de jeux vidéo puis que j'ai fait plein de livres dont vous êtes le héros, puis finalement que j'étais comme waouh, on va clencher ça, tu sais. Puis c'est tellement une expérience différente de communication puis de gestion de crise puis de savoir quand écouter, quand dire des choses, quand ne pas les dire, qu'on s'est vraiment fait avoir, puis on l'a pas eu, et j'étais fâché. Je suis sorti de là la première fois, puis tu sais, j'étais assez vieux, là, ça fait quoi, ça fait 3 ans, je pense, j'ai fait mon premier escape game. Fait que je suis pas allé bouder dans mon coin, j'ai fait « Wow, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment? » Tu sais, pourquoi je suis fâché de pas avoir été capable de sortir et de pas tout communiquer non plus, parce qu'il y a des choses, je les ai vues, tu sais, les feuilles devant moi, je les ai vues, les codes de couleurs, mais vu que je les ai pas dites,
c'est pas fait avec,
avec d'autres personnes, puis il y a d'autres personnes qui se sont même fâchées pendant cette fait que, tu sais, c'était vraiment ouais, je suis ressorti de là avec l'envie d'en faire plein d'autres, évidemment, et aussi l'envie de recommencer celle-là aussi.
Mais est-ce que t'as eu l'envie de recommencer avec appelons-la une dream team. T'as-tu eu l'envie de dire comme, ben, si je continue à faire cette expérience-là avec une équipe, un peu comme, mettons, quand tu te montes un, je sais pas, moi, mettons, on pourrait parler de Donjons et Dragons. Mm-hmm. Bon, ben, j'ai une guilde avec qui je travaille tout le temps. Puis on sait qu'on a une bonne synergie d'équipe. Est-ce que t'avais comme l'ambition de te monter ta dream team pour être de plus en plus efficace, de plus en plus compétent?
J'ai des amis avec qui j'en fais assez régulièrement. Mais pour de vrai, un peu de la même manière, quand je joue à des jeux de société, justement, j'aime ça avoir une variété pour bouncer différents types de personnalités, mm-hmm. puis différents types de déduction, puis d'esprit, d'esprit, différents types d'intelligence, en fait. Mm-hmm. Là. Fait que je thrive, j'espère l'essayer avec le plus de monde possible, tu sais, de le faire de manière le plus différente. Par contre, je pense que plus que 5 personnes, c'est trop. Ouais, mm-hmm. Escape game.
Ouais.
Fait que
ouais.
Parce qu'il y a des salles qui sont ouvertes jusqu'à 10 personnes. Ça, c'est énorme.
Ridicule.
Mais ridicule. Ça, pour revenir aux éléments de définition que j'ai mentionné plus tôt, on a parlé du lieu, on a parlé des énigmes, mais ça, c'est un des éléments, je pense, qui est le plus important quand on veut réfléchir aux jeux d'évasion. C'est vraiment les joueurs, mm-hmm. les équipes, la communication. Mm-hmm. Puis, c'est pas pour rien qu'il y ait bien des entreprises qui font du team building dans des activités de team building dans les escape rooms. C'est parce que la communication, c'est vraiment la clé qui va te permettre de... ça sonne un peu kitsch dit de même, mais en même temps, comme ton témoignage le prouve, c'est que même si t'es capable de décoder toutes les énigmes par toi-même, si tu les communiques pas aux autres, vous allez jamais sortir de là.
Oui, puis j'y pensais d'ailleurs avant l'émission, j'étais comme, c'est-tu une bonne activité de team building?
Je me posais la question.
Je suis pas certain. Ben,
ça pense peut vraiment envenimer les relations de travail à l'avenir.
Ben oui, puis dans quel job d'envie on a besoin justement de gérer ce genre d'affaires-là?
Ce qui est intéressant, par exemple, ce que je disais à Megan avant l'émission, c'est ça peut être une vraiment... ça peut vraiment être une activité intéressante lorsque tu tu apprends des méthodes de communication efficaces, puis que, tu sais, suite à, mettons, une formation de communication ou un rappel à l'ordre de communication, d'aller appliquer ce que tu as appris dans un contexte ludique. Mm-hmm. Tu sais, au lieu de faire comme, bon, ben on va aller se mettre peut-être en situation d'échec, puis après, on va comme revenir sur comme, bon, qu'est-ce qui a pas bien été?
Ouais. Mais ce serait comme une espèce d'usage un peu pédagogique aussi du jeu d'évasion, là, à ce point-là. Aussi, comme toute l'industrie du jeu sérieux peut investir ce genre de milieu-là, puis justement, essayer de miser sur les méthodes de communication, puis après le retour. Donc, il y aurait moyen d'investir ça.
Peut-être
aussi
quelqu'un qui regarde aussi là, les comportements de groupe qui se sont passés. Je suis capable d'imaginer des chicanes. Tu sais, il y a tout le temps des moments où est-ce que là, tu viens d'ouvrir le cadenas, tu ouvres un nouveau tiroir, puis là, il y a des nouvelles bebelles. Puis ça, c'est super excitant comme moment. Mais s'il y a un joueur qui est tout le temps en train de se tirer dessus, là, plutôt qu'il y a une nouvelle patente qui arrive, ou c'est lui qui ouvre tout le temps la première porte, essaie de partager.
Puis, Alpha game.
Tu veux clairement avoir un joueur alpha
dans
une dynamique
c'est...
comme cela. Puis là, ben, tu dis, j'aurai plus jamais. Je vais essayer de plus jouer avec celle-là ou celle-là.
C'est toujours ce joueur-là qui dit, non, fais pas cette énigme-là, je l'ai essayé, ça marche pas, on n'a pas encore toutes les infos. Puis là, tu vas dessus, puis t'es capable de le faire. Puis là, il est fâché. Mais c'est ça, c'est des types de personnalités, c'est vraiment intéressant. Puis. Ouais, c'est ça. Dans le cadre d'un travail, je sais pas à quel point ça peut être intéressant. En tout cas, je sais pas mais si vous l'avez déjà.
Ça me fait penser à. On sort un peu, mais pas tant que ça. Mais tu sais, en termes d'énigmes de le jeu vidéo Keep Talking.
Nobody
Will Explode. Mais ouais. Ça c'est intéressant parce que tu vois ça c'est un jeu
de communication
ou rapidement. Je sais pas pour vos expériences de jeu, mais nous, rapidement, c'est que on finissait par développer, moi, je vais me spécialiser dans ce type de décodage-là ou dans ce type de désamorçage-là. Puis comme ça, mais c'est un peu comme, je me fais donner cette tâche-là d'apprendre bien comment fonctionne le coupage de fil, mettons. Ah, moi, je vais vraiment devenir le spécialiste du code morse, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est quand même un... c'est une discussion à avoir de comme mettons en début d'escape room de faire comme ben moi je me mets sur cette énigme là puis d'avoir l'humilité de faire comme ouais finalement c'est peut-être pas ce que je suis capable de faire c'est peut-être je serais peut-être mieux d'aller bouger ailleurs mais vous qui en avez fait plus considérez-vous que c'est plus important de se spécialiser sur une énigme pour être plus efficace ou ça serait de comme un peu tout le temps que tout le monde touche à tout?
Je dirais que ça dépend vraiment de la salle parce que pour en avoir fait plusieurs il y a des fois où je me concentrais sur une énigme puis j'arrivais à la casser mais il y a des moments où si t'as pas vu l'ensemble du truc c'est difficile de faire le pont entre les éléments puis des fois tu te dis ok moi je suis bon d'en faire ça mais dans cette salle-là il y a pas ça ou il est présenté d'une façon différente donc il y a pas vraiment je vois difficilement comment je peux dire ah, moi je suis un spécialiste de ça donc quand il y a ça dans une salle c'est moi qui le gère parce que malheureusement tu sais pas les salles sont trop différentes quand on parle de Keep Talking c'est les mêmes jeux qui reviennent tout le temps donc forcément tu peux juste devenir plus efficace parce que tu rejoues le même truc. Certes, il y a des petites données qui changent, mais l'ensemble du jeu, du casse-tête reste le même. On parlait rapidement, là, quand on est plus que 4, j'en ai fait un où on était 8.
Non.
Ouais.
T'en es sorti?
Oui, on a réussi, en fait. Et c'est là que j'ai
trouvé. Ça permet de diviser les coûts.
Ouais, non, ben non, parce que c'est un coût par personne.
C'est 20 piastres par personne.
C'est par personne, ouais, c'est ça, c'est l'autre truc. C'est 20-30 piastres par personne. Donc, eux autres, ils étaient bien contents. 8 personnes d'un coup, hein.
Ouais.
Parce que si c'est deux personnes qui louent pour cette heure-là, c'est pas la même entrée d'argent. Mais là où je m'en allais avec ça, c'est, on est rentré, puis là, les gens se sont pitchés un peu partout, ramassés les trucs, puis je me suis arrêté un instant. J'ai vu que tout le monde était sur quelque chose, puis j'ai fait, bon, ben, tu sais, j'ai rien sur lequel moi je vais embarquer. J'ai vu un cadenas à chiffres. J'ai fait, OK. Puis là, j'ai essayé 1, 2, 3, 4. Tac, je l'ai cassé. Je suis allé à un autre. 1, 2. Et puis, on a réussi. Hein, parce que j'ai cassé les cadenas.
Un hacker.
Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes pour ça? C'est
ben,
tricher.
Oui. Ben, est-ce que c'est de la triche? Si le jeu me permet de le faire, est-ce que c'est de la triche? Mais moi, je ne l'ai pas senti comme une triche, mais j'ai juste senti comme, ben, j'ai cette opportunité de pouvoir le faire. J'ai pas comme cassé du matériel.
Le gros problème avec ça.
S'il ne voulait pas que ça arrive, il aurait pu mettre une clé où le code était.
Ouais, mais peut-être manquer de quoi de coup.
C'est ça. Le problème avec ça, c'est que ça se peut que d'autres personnes soient en train de résoudre des affaires qui vont éventuellement t'amener au code.
On était 8.
Ouais. C'était correct.
Mais d'où la question, qu'est-ce qui est le plus important entre comme vivre l'expérience que les autres ils veulent que tu suives le point A, B, C, D ou genre de réussir.
Ouais. Mmh. C'est aussi ça, moi je trouve ça cool de pouvoir dire que j'ai cassé le truc. C'est une expérience différente aussi de dire, regardez, on l'a fait parce que j'ai cassé deux cadenas ou trois, je me rappelle plus.
Ouais, moi je pose la question, mais je l'ai fait aussi, là, Mission Morpheus, pour ne pas le nommer. Okay. Il y a un cadenas à un moment donné qui c'était comme un vieux cadenas, c'est difficile à expliquer à la radio parce que c'est quelque chose de visuel. Mais bref, en tournant les molettes, j'ai été capable de juste ouvrir le cadenas, puis je l'ai quand même communiqué, tu sais. Je l'ai ouvert, puis je vais dire, hey, je viens d'ouvrir la porte en gossant après le cadenas, puis tout le monde était comme, ok, cool, puis on est passé à la prochaine pièce, tu sais. Fait que, en laissant certaines informations derrière, puis on y est revenu, etc. Mais je pense que tant que ça reste dans la communication, c'est pas nécessairement de la triche, puisque...
Mais on peut faire un parallèle aussi avec ça. Dans les études de jeux vidéo, on peut voir comment le jeu, tu sais, on peut suivre le programme donné par le jeu, soit la narration plus linéaire, ou suivre le programme, ou justement avoir des cheat codes, ou faire des pratiques de jeu qui sont plus subversives. Mais les deux sont possibles. Il y en a pour qui c'est de la triche, il y en a pour qui d'autres, regarde, il y avait une erreur dans ton code, puis qui me permet de passer de tel tableau à tel tableau dans Zelda, je vais le prendre,
tu sais. Mm-hmm. Ouais. Ça me fait penser à justement probablement le plus gros fléau des escape games, le problème de c'est-à-dire quand les personnes essayent de forcer quelque chose puis ils brillent,
mais
c'est jamais, je pense pas qu'il y a personne qui le fait avec la malice, non. De comme, tu sais, tout le monde est tout le temps je veux sortir, c'est tout, tu sais, hop, ça bougeait, puis
personne qui arrive avec une batte de baseball.
C'est ça, puis yes, dans les coffres.
Mais c'est pour ça qu'ils disent comme si ça se défait pas facilement, c'est que c'était pas ça. Mm-hmm.
Ouais, parce que tout le speech qu'il dit au départ, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Mais comme c'est chaud là sur le cop de café, là, tu te dis pourquoi qu'ils écrivent ça, pourquoi qu'ils t'expliquent tout ça, c'est parce que par le passé, il y a des gens qui ont cassé leurs affaires.
Mais j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait un escape game, puis pour sortir à la fin, fallait qu'il mette un couteau dans une prise de courant.
Wow. Oh, wow.
Entrusted.
Ouais.
Ouais. Mais il n'y avait pas de courant pour vrai.
Non. Non, c'était probablement un truc qu'il fallait pousser au fond, tu sais. Ouais. Puis le seul outil qu'il y avait, c'était ça. Fait que c'est.
Mais j'imagine que narrativement, ça avait du sens, sûrement, là. Sinon, comment tu veux deviner ça?
J'ose espérer. Non, il y avait sûrement des indices pour ça, mais tu sais, c'est intéressant de voir.
Jusqu'où tu vas aller.
Ouais, jusqu'où.
Pour tester.
Ouais, exactement.
Je me rappelle qu'on m'avait dit, ne le faites pas spécifiquement.
Ben oui, puis il y a certains.
Moi, je jokais. J'étais comme, d'après moi, il faut le faire. Parce que j'étais mon type de joueur, moi je fais de la distraction, moi je vais jouer avec les accessoires inutiles. Il y avait un cadavre, il y avait un squelette avec des vêtements, je l'ai looté, j'ai mis son ring. Il y a des valises avec des vêtements, genre je fais que hey, ça pourrait me faire ça.
Puis là tu te rends compte une demi-heure après qu'il y avait une clé dans sa poche. Ça m'est déjà arrivé.
Mais ça amène, en fait, tu parles de ton expérience, Sébastien, comme quoi c'est quelque chose que tu as trouvé le fun, ou moi qui a cassé le cadenas. Tu sais, oui, la finalité c'est de sortir. Mais l'intérêt de la chose, c'est d'avoir une expérience qui était le fun puis intéressante. Puis c'est pour ça, quand tu posais la question tantôt, tu sais, est-ce qu'il y a une histoire et tout ça, mais ça dépend toujours de ce que tu recherches comme expérience, comme vécu au sein de la salle. Puis je pense que celles qui sont le plus intéressantes, c'est celles qui arrivent à te surprendre, qui t'apportent quelque chose, que tu fais comme oh wow, ok, je m'attendais pas à ça, ou ils ont fait tel élément. Puis c'est ça qui rend la salle intéressante, parce que j'en ai fait ce que j'ai trouvé un peu générique, dans le fond, c'est des énigmes, puis voilà. Puis oui, c'est cool les énigmes, mais tu sais, tant qu'à être là sur place en personne, autant vivre quelque chose d'un peu particulier avec l'environnement que vous créez, ou bref, ça c'est plus du commentaire, mais justement le fait de jouer avec les accessoires, ça fait partie de l'expérience à mon avis, puis c'est ça qui fait que ça peut être le fun aussi.
Il y en a qui se spécialisent aussi, il y a des je pense à Escaparium notamment, il y en a un à Dorval, un à Laval, c'est des gros robots, là. Il y a comme des gros dinosaures qui bougent, puis des gros aliens qui bougent. Fait qu'eux autres, c'est leur wow factor.
Parce qu'il y a clairement des thématiques qui sont plus génériques, comme une espèce de CSI, ou plus des énigmes plus policières, ou d'horreur aussi. Il y en a beaucoup d'horreur, mais j'ai vu des trucs assez intéressants. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais moi, c'est vraiment une question très personnelle. J'ai vu qu'il y avait un escape room avec une thématique de voyage dans le temps. Est-ce que vous avez déjà essayé ça?
Je pense que je l'ai fait, oui.
Ouais. Comment ça marche?
C'est tout simplement...
OK.
Non, il n'y a pas vraiment de voyage dans le temps. Ça fait penser un petit peu à ce qu'elle a dit tantôt, là, avec le tu te croirais dans les années 80. Moins que c'est un autre, là, qu'on pense.
Mais est-ce que tu parles que, comme, t'as la chance de, comme, changer de décor parce que tu peux voyager dans le temps?
Ah, peut-être, je sais pas. C'est vraiment juste, j'ai lu une liste de thématiques qui étaient possibles. Tu sais, il y a les pirates, il y a des trucs avec des robots, puis il y avait time travel.
Parce que ce qui peut en être, peut-être, c'est la pièce où tu te trouves, c'est dans un cadre particulier. Puis une fois que tu passes à l'autre pièce, t'es dans la même pièce, mais avec des éléments un peu différents. Puis c'est ça l'idée, l'impression de voyage dans le temps.
J'ai déjà fait ça, ouais. J'en ai déjà fait une qui était assez géniale, là, à thématique un peu Cthulhu, voyage au travers les portails, là. Puis on était dans un musée, puis finalement, on finissait par ouvrir une peinture, passer dans une antichambre, puis en faisant une incantation, whatever, il y avait de la lumière, une porte de lumière qui s'ouvrait, puis quand on était de l'autre côté, c'était la même pièce, mais flippée à l'envers, puis il y avait plein d'éléments qu'il fallait qu'on se rappelle de la première pièce. C'était assez génial, ça, c'était très bien. C'est fermé, malheureusement.
Ça m'amène à des questionnements aussi sur le côté soit les trucs mécaniques ou informatiques qu'il y a dans certains jeux d'évasion. De mon expérience, je trouve ça cool, mais ça fonctionne à moitié.
Ben, parce que ça coûte très cher, puis souvent, t'as des breakers, t'as des gens qui vont détruire. D'ailleurs, Mission Morpheus a une salle que c'est à thématique 2001, l'Odyssée de l'espace. Et tous leurs ordinateurs sont comme dans des boîtes. Puis quand tu vas avoir accès à des fils, c'est tous des fils individuels extérieurs avec des jacks 1-8. Puis c'est super bien fait pour pas que tu sois capable d'y toucher physiquement, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment bien. L'interaction, souvent, ils essayent de contourner l'aspect brisable, en fait, des énigmes, parce que sinon, c'est difficile à renouveler.
T'sais. Ouais, moi, ça m'amène, en fait, à un des jeux d'évasion que j'ai fait où... on était coincé dès le début. Il y avait une porte qui était fermée, puis il y avait un ou deux petits indices. On voyait à l'intérieur de la salle, mais était comme derrière une genre de fenêtre à barreaux. Et il fallait cogner à un endroit précis sur le mur pour ouvrir la porte. Mm-hmm. C'est cool. On avait compris. On savait où il fallait cogner. Il y avait même la marque des gens qui avaient cogné précédemment. mais il fallait cogner à un rythme très précis. Et on essayait, tu sais, comme rapidement, lentement, puis ça fonctionnait pas. Puis à force d'essais, puis de parler avec le gars, on a réussi à faire le truc. Puis j'ai trouvé ça dommage. L'idée est super bonne, mais au final, mécaniquement, ça coince. Mm-hmm. Puis je trouve ça dommage quand c'est des éléments mécaniques comme ça, que t'as compris, tu sais ce qu'il faut que tu fasses, mais t'as pas exactement le bon petit rythme ou tu t'appuies pas exactement au bon endroit, et là, ben, ça te gâche du temps et de l'expérience, en fait. Je sais pas si vous avez eu ça vous aussi, mais moi, ça m'est arrivé. Pas juste là.
Une seule fois, puis c'était si vous êtes pas tout capable, dites-nous-les, puis on va vous aider. Puis finalement, on avait un expert voleur.
Parce que tout l'aspect matériel, ça peut être autant un avantage ou dans le sens immersif du terme, parce que là, on est vraiment dans la pièce. Je trouve ça vraiment cool, l'idée avec les portails. Puis ça doit avoir une espèce d'effet d'étrangeté de comme être physiquement dans une pièce qui est exactement comme la dernière que tu as vue. Fait que, ici, on peut jouer avec ces effets-là, mais évidemment, ça peut être un gros inconvénient au sens où, dans le jeu vidéo, si ton code de... tu fais le code que tu avais besoin d'entrer, le programme brisera pas nécessairement. Là, c'est ça. Il y a moins de chances de détérioration, c'est ça, chercher du jeu. Je vois que le temps file, puis on n'a pas encore parlé des espèces d'extensions, parce qu'on essaie de définir c'est quoi. Je pense qu'on a une très belle idée de qu'est-ce que le jeu d'évasion est en ce moment, surtout à Montréal. Donc, tous les exemples que vous mentionnez viennent de la métropole. Mais évidemment, il y a comme une reprise de cette mécanique-là, parce que ça vient du jeu vidéo, oui, ça vient de toute une expérience immersive, un peu comme les maisons hantées, mais aujourd'hui on, c'est ce que tu me disais, Elisabeth, avant d'entrer en onde, on réutilise un peu le principe du jeu d'évasion dans des grandeurs nature, qui c'est très très proche là.
Ben oui, voilà, parce que t'as littéralement des fois, bon, il faut que tu touches à des objets, puis que tu tasses des affaires, puis là, ils peuvent vraiment installer, dépendamment de la des capacités d'ingénierie des personnes qui vont monter les quêtes, il y a moyen que vraiment il fallait que tu te déplaces telle chose pour que tel portail s'ouvre, mais personnellement, ce que j'ai surtout vu, c'est beaucoup dans le storytelling. Donc, c'est que tu te laisses un peu faire à croire que t'es enfermé, mais t'es pas réellement enfermé. Mm-hmm. Mais où est-ce qu'on va décrire des objets, où est-ce qu'on va décrire des choses. Puis là, dans le fond, il y a une espèce de mélange. En plus, ce qui me faisait rire, c'est quand on parlait donc de team building, parce qu'il y a dans les Grandeurs Nature aussi cette espèce de couche-là supplémentaire où t'as l'ingéniosité des personnes qui participent à la quête en tant que personne, mais t'as aussi l'ingéniosité de ton personnage, parce que y a des personnes qui vont dire comme, genre, je serais capable, mais mon personnage n'est pas capable parce que j'ai pas de main, ou je sais pas lire.
Tel ou tel background m'empêche de résoudre l'énigme.
Ou l'inverse, mon personnage est tellement plus intelligent que moi, il devrait être capable.
mais il y a ça aussi, tu sais, comme dans les Grandes Natures, il y en a un que j'ai fait, j'étais dans un genre de escape the room il y a 2 semaines, où est-ce que on avait une mission, puis la mission, finalement, on touchait un objet, puis le maître de jeu nous dit, bon, ben, ça y est, vous avez disparu, vous allez réapparaître à tel endroit, et on finit par comprendre qu'on est emprisonné dans une dimension parallèle du village où est-ce qu'on était. Puis là, c'est comme, bon, il faut que tu sortes de là, mais comment? Fait que là, tout le monde a réapparu à des endroits différents du village, on avait plusieurs choses, puis là, ben, c'est encore une fois des histoires de communication puis tout ça, puis en plus, rentre en plus de la communication, en plus de l'ingéniosité, en plus de répondre à des énigmes physiques et d'intelligence, il y avait l'aspect de, bon, ben, il y a toute la connaissance qu'on a de l'univers du Grandeur Nature, qui est celui-là en particulier, qui est beaucoup basé sur, il faut que t'apprennes à connaître tout le lore pour être capable de faire fonctionner des trucs, puis au final, la façon de sortir, ça a été la résolution d'une quête personnelle d'un individu qui, dans le fond, a dû se sacrifier, mais c'était comme écrit dans le destin de son personnage, comme elle savait qu'un jour elle allait mourir, puis là, ben c'est que...
Très cool.
Faut que tu meurs là pour qu'on sorte de notre monde parallèle. Mais c'est ça, mais toute l'utilisation, justement, tu sais, du donjon, en fait, tu sais, toute l'idée où est-ce que, mettons, tu rentres dans le donjon, la porte se ferme derrière toi, il faut que tu sortes du donjon, tu sais, ça reste un genre d'escape the room, mais différent avec, donc c'est pas du tout la même mécanique, mais où est-ce que il y a de l'énigme et tout ce que tu peux pas physiquement faire peut être remplacé par du storytelling où on va tout s'entendre qu'on comprend ou qu'on va s'imaginer que la porte est fermée.
Parce qu'il y a cet aspect-là de fantasy qui est vraiment plus important dans le GN, au sens où il n'y a pas tout le matériel qu'il y a dans les installations de jeux d'évasion, comme
mais
on peut les voir.
Encore là, ça dépend. Ouais. Parce qu'il y a des grandeurs nature qui vont dire si t'es pas physiquement capable de le faire ou si t'es pas physiquement capable de le représenter, tu peux pas le faire. Tu sais, ou est-ce que, tu sais, comme mettons, tu peux pas dire, OK, ben, hey, je vais utiliser ma compétence de non. T'es pas capable. On n'est pas capable de te le faire à croire, voir avec des accessoires. Donc, dans notre univers, il n'y a pas de téléportation, puis il n'y a pas plein d'affaires. Alors que t'en as d'autres qui sont vraiment basés sur comme, on est un peu en train de jouer à Donjons et Dragons en même temps. Fait que, comme, imagine-toi que, tu sais. T'sais, ça dépend
plus du côté de la reconstitution historique qui n'a jamais existé. Mm-hmm. Et puis l'autre, plus du jeu de rôle papier. Mm-hmm. Continuons entre les deux.
Voilà, ouais, tout à fait.
C'est ça, mais c'est intéressant de voir que, comme, c'est la pratique, c'est tellement commence à tellement bien s'organiser qu'on peut exporter des mécaniques comme ça dans d'autres jeux. C'est sûr que c'était préexistant, c'est des jeux d'énigmes ou des trucs comme ça, mais de voir qu'il peut avoir ce type d'hybridation là entre le GN et le jeu de rôle, ben le jeu de rôle aussi. Ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se cristalliser. Donc, il y a tout l'aspect communication de joueurs, l'aspect matériel, tout le principe d'être coincé dans une pièce. Mais là, il y a aussi, c'est ça comme on disait tantôt, il y a aussi des jeux d'évasion qui sont plus basés sur le sortir de la pièce, mais plus comme comprendre la pièce. Donc, il y a vraiment le mélange, à mon avis, entre les personnes qui sont dans un lieu donné et qui cherchent à comprendre ce lieu-là, puis je pense que c'est la base aussi de la mécanique du jeu d'évasion. Je sais pas si vous avez des objections à apporter ou des nuances là, mais
ben le meurtre et mystère, c'en est-tu un?
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
On essaie de savoir
mais
si.
C'est ça, mais parce que dans un meurtre et mystère, dans un meurtre et mystère, le lieu est pas très important, je pense, non plus. Parce qu'on peut prendre un jeu de meurtre et mystère, aller s'installer dans les sofas de choc là-bas, puis le faire quand même. Là. Donc, l'aspect dialogue est important. Mais je pense que l'aspect matériel et l'espace qui est très important et le temps aussi.
Je vais rebondir. Vas-y.
Non, ben j'allais lancer la perche. Okay. J'ai jamais fait.
Ouais, c'est bon. Je vois ta perche. Me permets-tu un petit écartard d'avant? Tu parles des meurtres et mystères. Il y a un truc que j'organise que j'appelle les soirées d'intrigue, mais qui peuvent aussi être appelées murder party ou soirées d'enquête, qui sont quelque part à mi-chemin entre les meurtres et mystères où tu sais, tu lis tes dialogues puis tu peux être assis dans ton canapé et l'idée de le vivre en vrai comme dans un GN. Et au final, il y a une histoire, il y a une narration, puis c'est très très ancré sur l'histoire. T'as du matériel, t'as des éléments, t'as des indices, puis chacun des personnages, chacun des joueurs a son objectif dans la soirée à atteindre, mais on n'est pas dans la résolution d'une énigme, on est peut-être dans la compréhension de ce que moi en tant que joueur je dois réussir à faire pour réussir à gagner entre guillemets ma soirée, mais on est plus du côté grandeur nature à ce moment-là que
J'imagine que c'est moins coopératif aussi, vu que c'est un peu chacun pour soi. Là.
Oui et non, ça dépend des scénarios évidemment, mais chacun a ses propres intérêts, son propre background, ses propres avenues à explorer, mais évidemment on peut travailler avec d'autres pour essayer d'y arriver.
Est-ce qu'il existe des jeux d'évasion avec comme des secret missions? On pige une carte au début, puis là il faut comme réaliser...
Pas à ma connaissance.
Non, c'est une bonne idée.
Marc-Antoine, c'est une bonne idée.
C'est une bonne question.
J'ai tout vécu.
Non, j'ai jamais vécu ça.
L'expert.
L'idée.
Ben, ça serait intéressant de dire, tu sais, ton objectif, c'est. Mais c'est un peu comme. Ouais. Sans vouloir donner trop de punch, c'est un peu comme ce que Octus présentait, en fait.
Ouais.
Parce que Octus nous présentait, qui était un jeu immersif urbain, qui a été fait par Herald, qui font des grandeurs nature, beaucoup autour de l'univers des zombies, et que t'avais justement, on te dit, toi, ton objectif, c'est de faire ça. Fait que c'était, en tout cas, je veux pas trop en dire parce que je pense qu'ils vont le refaire bientôt, puis on va parler de l'importance des spoilers tantôt. Puis au courant de la mission, tu comprends que t'as une mission beaucoup plus importante à faire, donc tu déroges totalement de ton objectif principal que t'avais pour comme passer vers le meilleur pour le bien commun, si je peux dire comme ça. Puis ensuite, il faut que tu te sépares, fait que là, tu vas-tu aller dans telle quest ou telle quest, puis là, tu vas te retrouver à la fin, puis là, tu vas découvrir que c'est le début, c'est la pointe de l'iceberg d'une grande mission immersive où t'es invité à revenir à pouvoir poursuivre l'histoire narrative du jeu.
Intéressant.
Ouais, vraiment intéressant.
Sébastien, excuse-moi.
Ah, ben, en fait, c'est que je suis intéressé à en acheter, j'en ai jamais essayé, mais les jeux d'évasion en jeux de société, Marc-Antoine, t'en as fait.
Ouais, je pense que j'en ai fait beaucoup, là. Oui, j'ai fait j'ai pas fait tous les exits. J'ai fait 4 exits, j'ai fait tous les unlocks, par contre, et j'ai fait aussi tous les deckscapes qui sont disponibles.
C'est combien la boîte?
Ça va dépendre. Il y en a en location. Ouais. Fait que, puis c'est probablement les meilleurs jeux à louer parce que justement, c'est des scénarios, t'es fait juste une fois, etc.
Ou à jouer dans un café.
oui, absolument, absolument. Mais oui, c'est ça, les unlocks sont un petit peu plus narratifs. Ça, c'est la compagnie Space Cowboys. C'est des Français qui se spécialisent quasiment dans les dernières années dans ce type de jeu narratif-là avec Time Stories, d'autres jeux qui ont fait comme ça, qui se jouent des... Eux-mêmes disent que c'est des jeux jetables. donc c'est ça. Unlock, c'est vraiment plus narratif. Je dirais que les énigmes sont familiales. Parfois plus difficile, parfois plus simple. Exit, par contre, c'est moins narratif, donc plus dans les clichés de tueurs en série ou les pyramides avec des hiéroglyphes de VHS. C'est pas très bon narrativement.
Ça, ouvre la boîte.
Ça dépend duquel on parle.
Mais c'est pas mal tout le temps. Un paquet de cartes.
Ouais.
Okay. Avec une carte principale qui va te dire « Voilà, tu te retrouves dans cette pièce-là. » Et sur le dessin principal, il va y avoir des chiffres qui vont t'amener vers d'autres cartes. Dans le cas spécifique de Unlock, c'est des cartes rouges et des cartes bleues qui vont se mettre ensemble. Donc, tu vas faire la carte 11 rouge et la carte 22 bleue. Tu vas les mettre ensemble, ça va te donner la carte 33. Fait que tu vas aller chercher la carte 33.
Donc, c'est un coffre qui est la carte 11, puis une clé qui est la carte 22. Ben, tu vas chercher la 33 qui va être « Ah, t'as ouvert le coffre, voici ce qu'il y avait dedans. »
Ben, tu vois, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les boîtes distraction. Je sais pas si t'as pu les tester.
Moi, j'en ai fait une.
Toi, t'en as fait une. Ouais. T'as fait la première?
Je me rappelle plus d'une.
La boîte en carton,
oui,
brune.
C'est
ouais,
ça.
Ouais.
Mais je sais pas si ça existe encore. Mais, mais parce que c'était une connaissance de grandeur nature qui avait parti la compagnie. Je sais, j'ai pas beaucoup entendu parler de distraction sur son Facebook. j'ai tendance à dire que peut-être que, qu'ils n'en font plus, mais ce qui était cool, c'est que c'était littéralement une boîte que tu recevais, puis tu te faisais dire, tu te fais donner une boîte. Mm-hmm. Puis on te disait, ben, t'as besoin de ce qu'il y a dans la boîte, mais t'as aussi besoin de ce que t'as besoin de base dans ta maison.
Sur Internet.
Tu devais aller sur Internet, ouais, justement, pour faire des recherches. La première énigme, entre autres, demandait de l'utilisation de Google Maps, puis de tout ça, là, pour aller voir sur Google Maps de quoi avait l'air la maison pour trouver tel objet, puis en tout cas, c'était cool parce que justement ça sortait un peu là on venait peut-être plus proche de ouverture facile justement pour faire une boucle avec ce qu'on a dit en début d'émission, mais où est-ce qu'il fallait que t'aies outside the box justement là pour réfléchir à ce qui se trouvait dans ta boîte.
Quite literally.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que malheureusement ils en font plus, mais c'était probablement parce que ça devait être très dispendieux là, comme à produire. Mais oui, c'était l'avantage de cette boîte-là qui était, c'est comme le jeu immersif était possible, puis c'était tout à fait logique dans le contexte que tu réalisais ça dans le confort de ton salon.
Mm-hmm. Ton fond et la forme.
Puis il me semble aussi, ce qui est intéressant que je trouvais avec ce format-là, c'était que c'était tout des trucs récupérables. C'était tout des trucs récupérés aussi.
Oui. Puis en plus, il y avait un projet, parce qu'on avait reçu aux Amazons de Christine Morancy, l'investigatrice du projet, l'instigatrice, dis-je, du projet. Et elle expliquait aussi que, tu sais, les personnes qui montaient les boîtes, c'est des personnes qui étaient dans un programme de réinsertion sociale. Ah, ouais. Tu sais, je veux dire, tout était vraiment très hot de ce projet-là. Ouais. Bref, on garde ça sur le hold, puis on check ce qui se passe avec Distraction, parce que c'était vraiment un beau projet.
Alors que Exit, c'est des énigmes où est-ce qu'il faut que tu déchires des trucs, que tu fasses des trous dedans, que tu plies. Puis physiquement, après, tu le jettes.
Ouais. La particularité aussi d'Unlock qui n'a pas été mentionnée, c'est qu'il faut que tu joues avec une application sur ton téléphone. Mmh. Sans l'application, tu ne peux pas jouer. Qui est une application très simple. C'est différents boutons pour rentrer des codes ou interagir avec des machines qu'ils appellent. Donc, certaines cartes du jeu, tu rentres le numéro de la carte et là, sur ton téléphone, tu peux appuyer sur des choses et tout ça.
Ah, super.
Donc, c'est une espèce d'hybride ludique. Hein.
Puis là, tu as de la musique, puis tu as ton timer d'une heure.
Tu peux jouer
heure.
Seul, ouais. Mais c'est-tu le fun à deux, puis c'est-tu le fun à quatre?
Oui, encore une fois, de la même manière qu'un escape game, moi, je le ferais pas à plus que 5.
Ouais, même 5, je trouve ça beaucoup, parce que vu que c'est des cartes, t'es pas comme dans une pièce où tu peux aller dans le coin de la pièce, fouiller, chercher. Comme c'est les cartes sur la table, ben, t'es en train de les tourner pour avoir ton point de vue dessus, donc même 4, je trouve ça limite.
Mais plus qu'un cerveau, c'est
Oui, ben, c'est plus simple. La première boîte disait 2 minimum, parce que la troisième énigme, t'avais 2 paquets. Fait que t'avais vraiment quelqu'un dans un, quelqu'un dans l'autre, mais la plupart des autres énigmes, tu peux les faire seul.
Ouais, moi j'essaie ça.
Il y avait une troisième compagnie aussi que t'as parlé, à part
puis qui sont allemands, si je ne m'abuse.
Comment t'as trouvé ton expérience?
C'était vraiment bien. Le design graphique était vraiment fort et l'aspect, je crois que c'était celui à Londres. Dès le début, ils disent il faut que tu t'assoies d'un bord de la table puis quelqu'un d'autre de l'autre côté de la table. Donc toi, tu vas voir certaines... Puis t'as plus le droit de toucher aux cartes. Donc toi, tu vas voir certaines choses puis moi, je vais aller voir à l'envers. Fait que je vais pouvoir te donner des infos puis toi, tu vas pouvoir m'en donner. Fait qu'il y a des belles trouvailles aussi dans ces petites boîtes-là.
Bon, l'émission tire à sa fin. Donc, en finissant, moi, j'ai jamais joué à un jeu d'évasion. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez en ce moment à Montréal d'aller essayer?
Ben, j'ai un petit faible pour Mission Morpheus, je te dirais. Okay. c'est une boîte indépendante, beaucoup de comédiens qui travaillent là, qui ont en fait des comédiens à la base qui ont parti le projet. Il y a 5 salles en ce moment à Mission Morpheus. Ils ont ouvert leur 5e. C'est très difficile, fait que attache ta tuque, mais c'est vraiment beau et le fun.
C'est bon. Est-ce que vous aviez d'autres suggestions?
Personnellement, mon expérience que j'ai le plus aimé en termes vraiment thématiques, ça a été la chambre années 80 dont on a parlé tantôt d'Escapaz. Mais malheureusement, elle n'est plus, donc voilà.
Mais Escapaz, ce niveau-là là, de qualité de production, là, fait que je pense qu'Escapaz en général...
Charlotte à Guillaume.
Oui.
Charlotte à Guillaume qui devait être avec nous, mais qui était avec nous en esprit, en tout cas, dans la discussion. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci Elisabeth, Sylvain, Seb et Marc-Antoine. Et merci aux auditeurs et auditrices qui étaient avec nous. J'ai vraiment hâte d'aller essayer ça. Il va falloir juste que je me trouve une couple d'amis. Là.
Moi, je suis très partante.
C'est bon, mais pas plus que 5.
C'est ça.
On est 5. On s'en va là.
On fera l'épisode retour sur notre expérience.
Ouais, c'est ça. Parfait, on va vous faire ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle émission de Pop en Stock.
Oh. you never left. You whip me up in the booth, I see your silhouette. When I start thinking about you, when I would never let somebody taint your truth. Cause tainted lovers all around and ain't cool, it's like you never left. You whip me up in the booth, I see your silhouette. When I start thinking about you, when I would never let somebody taint your truth. Cause tainted lovers all around and ain't cool, yo. When I'm reppin' my bro, I'm reppin' my blood. Before I rock a show, I even step in the club. It's Yancey Boys for life. Man, I don't give a f about the biz, but it is what it is. Trying to pay bills for the kids, make meals, roll around on big wheels with they so they use big deal when they need a big deal. But we're illest bitch real, they get pissed. But I raise my flag in a whole nother arena. Starting at 0-0, call me Arenas. Triple threat, infinite creator, when it's that. Gonna end, never funny question, how clever. I'm a young, loud rebel from the Mecca. Beast inside and a lyrical reflector. From the east side of Detroit, check up. Always on the grind, cause I gotta get my check up. Yeah, I'm always on my grind, cause the money on the mind. We forget about the cause, cause we want that effector. I'm always on time, on task, on the mission. While I listen to my big bro, chillin', reminiscing. It's like you never left. You whip me up in the booth, I see your silhouette. When I start thinking about you, when I would never let somebody taint your truth. Cause tainted lovers all around and ain't cool. It's like you never left. You whip me up in the booth, I see your silhouette. When I start thinking about you, when I would never let somebody taint your truth. Cause tainted lovers all around and ain't cool. Yeah, when I'm reppin' my bro, I'm reppin' my blood. So before I spit a flow, before the record is cut. Yancey Boys for life, man, I don't give a f about the biz, but it is.